France Inter.
Aujourd'hui, dans l'affaire sensible, nous embarquons sur le plus grand océan du monde. Nous naviguons sur un radeau fait de bois et de cordage qui a traversé le Pacifique sur 8000 km, poussé seulement par les courants et par les alizés. À bord de ce radeau baptisé Kontiki, 6 hommes, 5 Norvégiens et un Suédois. Le chef de l'expédition, Thor Heyerdahl, est persuadé que le peuplement de la Polynésie s'est fait depuis l'Amérique du Sud, que les Incas, ou leurs prédécesseurs, ont pu franchir d'immenses distances à bord d'embarcations rudimentaires. Face au scepticisme narquois des scientifiques à qui il avait exposé sa thèse, il décide de prouver que c'est possible en effectuant lui-même la traversée. Heyerdahl veut prouver qu'il n'a pas tort. Voilà pourquoi, au printemps 1947, six individus, jeunes, assoiffés d'aventure, n'ayant pas froid aux yeux, prennent la mer à Callao, au Pérou, après avoir vaincu un à un tous les obstacles. Et vogue le radeau, en route pour 101 jours d'une aventure exceptionnelle qui a passionné le monde entier, celle du Kontiki, qui, vous le voyez, n'est pas qu'un nom de camping. Notre invité aujourd'hui, Eric Comte, professeur d'archéologie océanienne et directeur de la Maison des sciences de l'homme du Pacifique, auteur, entre autres, du tout récent ouvrage « Sur le chemin des étoiles ». Eric Comte, qui est en direct avec nous de Papeete. Affaires sensibles, une émission de France Inter diffusée en direct. Récit documentaire, Odile Conseil, coordination Franck Cognard, réalisation David Leprince, chargé de programme Rebecca de Nantes.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Mai 1947. Quelque part, sur l'océan Pacifique, flotte un radeau surmonté d'une voile garée. Le Kontiki a pris la mer 19 jours plus tôt et son capitaine est plongé dans ses pensées. Du moins, le relate-t-il ainsi dans le livre qu'il a consacré à cette expédition.
Si par exemple, vous vous êtes embarqué sur un radeau avec un perroquet et 5 compagnons, il est inévitable que tôt ou tard, vous réveillant un beau matin en pleine mer, peut-être un peu plus reposé que d'habitude, vous vous mettiez à méditer. C'est un de ces matins-là que j'écrivis dans le journal de bord. 17 mai, jour de l'indépendance norvégienne. Grosse mer, bon vent. Je suis cuistot aujourd'hui et j'ai trouvé 7 poissons volants sur le pont, une pieuvre sur le toit de la cabine et un poisson inconnu dans le sac de couchage de Thorstein.
Mais qu'est-ce qui a donné à Thor Heyerdahl l'idée insensée de traverser un immense océan sur 9 troncs d'arbres reliés par des cordages ? Tout commence 10 ans plus tôt aux Marquises, sur l'île de Fatuiva, cocotier bercé par le vent, bleu ton sur ton du ciel et de l'océan. Pourtant, Thor Heyerdahl est né bien loin de cette carte postale polynésienne. Il est né à Larvik, en Norvège, 23 ans plus tôt. Passionné par la Polynésie depuis son adolescence, fort de ses diplômes en zoologie, il a obtenu une bourse pour aller y étudier de près les coléoptères et les poissons. Souvent, le soir, sur l'île où il a construit une cabane sur pilotis, il contemple le Pacifique. Et il constate que le vent vient toujours de l'est. Poussant de longues vagues, qu'aucun obstacle n'a arrêté depuis l'autre rive de l'océan là-bas, en Amérique. Il s'intéresse à l'ethnographie également. Un vieil homme lui a raconté la légende du dieu Tiki. C'est lui qui a conduit mes ancêtres dans ces îles où nous vivons aujourd'hui, lui confie-t-il. Heyerdahl connaît aussi cette autre légende entendue au Pérou, celle d'hommes qui en furent chassés et qui s'échappèrent en prenant la mer vers l'ouest sous la protection du dieu soleil Kontiki. Et puis il y a ces pierres gravées représentant Tiki en Polynésie qui ressemblent étrangement à celles que l'on trouve aussi en Amérique du Sud. Voilà comment Thor Heyerdahl lui-même présente la situation dans le film tiré de l'expédition du Kontiki en introduction des images réalisées in situ avec la caméra embarquée.
Bien que les îles de Polynésie soient situées dans une région du Pacifique proche de l'Amérique, on a toujours pensé que les habitants de ces îles venaient d'Asie, le berceau de la race humaine. Pourtant, malgré toutes les études, aucune solution au problème n'avait été trouvée et le mystère restait entier.
och kommer fram till problemets lösning.
Peu à peu, Heyerdahl se convainc que les premiers habitants de Polynésie, ces chapelets d'îles dispersées sur une surface aussi vaste que l'Europe, sont arrivés d'Amérique 900 ans avant que Christophe Colomb ne découvre ce continent. Il écrit d'ailleurs un ouvrage savant sur le sujet, y expose sa thèse dans le détail, on lui rit au nez. Il relate ainsi son rendez-vous avec un responsable du Muséum d'histoire naturelle à New York. Et c'est ce dernier qui entame le dialogue.
Il y a une chose que nous pouvons affirmer avec certitude, c'est qu'aucun peuple de l'Amérique du Sud n'a pu atteindre les îles du Pacifique. Il m'adressa un regard scrutateur et continua. Savez-vous pourquoi ? La réponse est bien simple. Ils ne pouvaient pas y arriver puisqu'ils n'avaient pas de bateau. Ils avaient des radeaux, objectai-je d'un ton hésitant. Le vieillard sourit et dit tranquillement. Eh bien, allez-y, essayez donc d'aller en radeau du Pérou aux îles du Pacifique.
Chiche, puisque personne ne croit à ma théorie, je vais leur prouver, moi, qu'elle est possible, se dit Thor Heyerdahl, et on va le faire sur un radeau. D'abord, il faut constituer un équipage et trouver de l'argent. Ça commence mal, pour le moment, Heyerdahl, qui s'est installé à New York, est fauché. La Norvège a sévèrement limité l'exportation de devises, et son père, un industriel prospère, ne peut plus lui envoyer de couronne, et encore moins financer son expédition. Il doit donc quitter son appartement et trouve refuge au foyer des marins norvégiens à Brooklyn. C'est bon marché, la nourriture y est généreuse et savoureuse. Il y croise un certain Herman Watzinger, un ingénieur issu de l'école polytechnique de Trondheim, la troisième ville de Norvège. Watzinger s'enthousiasme pour le projet. Se voit déjà responsable de la partie technique, réalisant des mesures météo et hydrographiques. Et Zou, il démissionne de l'entreprise qu'il emploie, il sera le second Heyerdahl. Ah, précisons que Watzinger n'est pas plus marin qu'Heyerdahl, mais ce dernier n'y voit pas un handicap. Au contraire.
Je ne voulais pas embaucher de marin de métier. Il n'en savait pas plus long que nous sur les radeaux. Et en outre, je ne tenais pas à m'entendre dire plus tard que, si nous avions réussi, c'était peut-être parce que nous étions de meilleurs matelots que les anciens constructeurs de radeaux du Pérou.
Pas de marin à bord, donc, à une exception près. Il faut quelqu'un qui sache utiliser un sextant, c'est tout de même le minimum pour naviguer et savoir où on va. Il se trouve qu'Heyerdahl connaît quelqu'un qui sait utiliser cet instrument de navigation. C'est un camarade d'enfance, un joyau de riz, aujourd'hui peintre et sculpteur. Avant cela, il a bourlingué sur tous les océans après avoir fait l'école navale. Il s'appelle Erik Selberg. Heyerdahl pense ensuite à deux hommes rencontrés pendant la guerre, deux héros de la résistance et des services secrets, Knut Haugland et Thorstein Rabi. Des hommes qui n'ont pas froid aux yeux et qui maîtrisent parfaitement l'utilisation des postes de TSF, une compétence qui aura son utilité. Alors, ni une ni deux, Heyerdahl envoie un courrier à ces trois hommes, une lettre brève qui va droit au but. Elle dit ceci.
Je vais traverser le Pacifique sur un radeau de bois pour soutenir la théorie que les îles polynésiennes ont été peuplées par des hommes du Pérou. Voulez-vous venir ? Je ne garantis que le voyage gratuit, aller et retour. Vous y aurez l'occasion d'appliquer vos capacités techniques. Répondez tout de suite.
Super, j'arrive, répond Thorstein Rabi dès le lendemain, par télégramme. Les deux autres sont également partants. Bref, tout va bien pour l'instant. Et idéalement, dans l'esprit d'Heyerdahl, il faudrait un sixième homme pour effectuer des quarts de 4 heures à la barre. Celui-ci apparaîtra plus tard, lorsque l'équipe sera au Pérou pour construire le radeau. Il faut de l'argent aussi. Eh bien, la chance en mêle. Au club des explorateurs de New York, un cercle très fermé auquel il a été admis suite à son séjour aux Marquises, Heyerdahl rencontre le Danois Peter Freuchen, qui a sillonné l'Arctique et vécu avec des Inuits. N'était son âge mûr et sa jambe de bois, il se verrait bien embarqué. Mais son aide est précieuse, même s'il n'embarque pas. Il présente Heyerdahl et Watzinger, un riche mécène new-yorkais, qui propose de financer l'expédition en échange de la promesse d'écrire à leur retour des articles et d'effectuer des tournées de conférences. Reste à présent à construire le radeau. Pour cela, direction l'Amérique du Sud.
Nous allons construire un radeau. Et,
et dériver vers le coucher
dériver
du soleil.
Dériver vers le coucher du soleil.
Sur place, nos héros, oui on peut dire ça, ils le méritent, sont attendus et bien accueillis. Grâce à des relations de leurs mécènes, ils ont pu entrer en contact à New York avec les représentants du Pérou et de l'Équateur à l'ODU. Ah, pourquoi à l'équateur? Eh bien parce que c'est là qu'il faudra aller chercher les balsas, c'est-à-dire les arbres qui serviront à construire le radeau. Balsa ou balsa. Ce mot évoque d'abord les maquettes d'avions, de bateaux faites de ce bois léger, plus léger encore que le liège. Les Incas utilisaient ces troncs pour fabriquer radeaux ou barques. Il faut donc trouver du balsa. Mais pas des planches ou des troncs secs, non. Ils doivent aller couper des arbres sur pied pour avoir des troncs verts encore gorgés de sève. L'affaire a son importance, on le verra. Mais les balsas ne poussent plus sur les côtes équatoriennes. C'est ballot. Ils ont été abattus et envoyés en masse aux usines d'aviation qui en font grand usage. Il faut donc aller chercher à l'intérieur des terres. Mais là aussi c'est impossible, leur dit-on. Les pluies ont commencé et les routes sont impraticables dans la forêt. Revenez dans 6 mois.
6 mois?
Non, hors de question. Non, il faut partir avant la saison des ouragans. Non, ouragans, donc dans 3 mois au plus tard. Commence alors une équipe terrestre en l'espèce qui pourrait s'intituler « À la recherche des troncs de balsa », avec 2 rôles principaux, Thor Heyerdahl et Herman Wensinger. Faute de pouvoir atteindre la forêt depuis la côte, nos aventuriers, jamais battus, imaginent de partir de la cordillère des Andes en descendant dans la forêt depuis les sommets plutôt qu'en y montant depuis la mer. Les 2 hommes se font emmener en avion à Quito, la capitale au perché de l'Équateur. Mais l'ambassadeur de Norvège les incite à renoncer. Aller en forêt serait une folie. Entre les pluies torrentielles, les Indiens réducteurs de tête et les bandits en tout genre, les dangers sont trop nombreux. Quoi ? Renoncer ? Non, ce n'est pas le genre de Thor Heyerdahl. En voyant passer une Jeep ornée d'un drapeau américain, il a l'idée d'aller frapper à la porte de l'ambassade des États-Unis. Et c'est l'attaché militaire qui les sauve, mettant à leur disposition un véhicule tout-terrain et un chauffeur qui connaît le pays comme sa poche. Au terme d'un voyage, tranquille, oui. Enfin, si l'on accepte les routes escarpées bordant des précipices vertigineux, la descente vers la forêt sous une pluie diluvienne, le passage homme et jeep d'une rivière en crue sur un radeau fait de balsa, bien sûr. Si on accepte tout ça, et si on l'accepte, ils arrivent à Quivedo, leur destination. La personne qui leur a été recommandée envoie ses hommes abattre 12 arbres de bonne taille, 9 pour le dessus du radeau et 3 dessous en transversal. Et voilà nos amis comblés. Il s'agit maintenant de les faire descendre vers la côte par la rivière.
Nous poussâmes ces troncs l'un après l'autre jusqu'au bord de la berge. Là, nous fixâmes au bout de chacun d'eux une corde faite avec des plantes grimpantes résistantes afin qu'ils ne soient pas emportés par les courants au moment où nous les mettrions à l'eau. Puis nous les fîmes rouler dans la rivière. Ils tournèrent et flottèrent, à moitié submergés, mais quand nous marchions dessus, ils ne s'enfonçaient pas. Nous les liâmes ensemble de façon à former 2 radeaux provisoires, l'un remorquant l'autre. Les ayant chargés de tous les bambous et lianes dont nous aurions besoin plus tard, Herman et moi montâmes à bord en compagnie de 2 hommes d'une mystérieuse race mélangée. Après avoir coupé les amarres, nous fûmes saisis par des masses d'eau tourbillonnantes et descendîmes la rivière à bonne allure.
Arrivé à bon port, Herman Nensinger cherche un navire qui chargera les troncs jusqu'au Pérou, tandis que Thor Heyerdahl file en avion à Lima pour trouver un lieu où construire le radeau. Une fois encore, les contacts noués précédemment aux États-Unis se révèlent utiles. La lettre de recommandation écrite par l'ambassadeur péruvien à l'ONU permet en effet à Heyerdahl d'accéder au président du pays qui dit oui à tout. D'accord pour un emplacement dans l'enceinte militaire du port pour y installer le chantier. D'accord pour que la marine donne autant de coups de main que nécessaire. D'accord pour qu'un remorqueur tire le radeau vers le large au moment du départ. Voilà, c'est à peu près à ce moment-là que le 6e homme fait son apparition. Il s'appelle Bengt Danielsson. Il revient en canoë d'un voyage d'études au cœur de la forêt péruvienne. Et il a lu dans un journal un entrefilé évoquant l'expédition d'Ikontiki et il veut en être. Il s'intéresse aux migrations, dit-il. Thor Heyerdahl n'hésite pas longtemps. Un Suédois solitaire qui a le cran de s'embarquer sur un radeau avec 5 Norvégiens ne doit pas être une poule mouillée, se dit-il. Donc, marché conclu. La construction du radeau se déroule à Callao, le port de Lima, avec l'aide précieuse de marins péruviens. 9 troncs côte à côte, le plus long au milieu, 3 troncs placés perpendiculairement aux autres, sur lesquels est posé un pont bambou, soit 14 mètres dans la plus grande longueur sur 5 mètres de large. Au milieu du radeau, une cabane de 4 mètres sur 2,50 mètres et 1,50 mètre de haut qui offre un abri minimaliste. Voici ce qu'en dit Thor Heyerdahl, doublé en français dans le film L'expédition du Kon-Tiki.
Notre radeau est enfin mis à l'eau. Un bateau sans clous, sans rivets et sans vis. Tout est lié ensemble, à la mode indienne, avec des cordages. Une petite hutte en tige de bambou est amarrée au milieu du radeau. Sous l'œil intrigué des pélicans, nous attachons un morceau de balsa avec des tolets afin de monter le gouvernail. Tous les nœuds, 300 en tout, sont bientôt terminés. Des découvertes faites dans des tombes au Pérou nous ont appris que les Indiens étaient passés maîtres dans l'art de fabriquer des cordages extrêmement résistants à partir de fibres végétales.
Une embarcation 100% traditionnelle, donc. L'équipage fait tout de même quelques concessions à la modernité en chargeant des rations alimentaires que l'armée américaine leur demande de tester. Deux membres d'équipage ne se nourriront que de cela. Ils embarquent aussi un dig, un canot qui permettra notamment à Thor Heyerdahl de s'éloigner du radeau pour le filmer depuis l'océan. On emporte également un poste TSF pour donner des nouvelles aux journaux qui suivront l'équipé et pour transmettre les relevés météo et hydrographiques effectués en chemin. Enfin, le 28 avril 1947, le radeau prend la mer. Tiré par un remorqueur qui l'éloigne des routes de navigation côtière, laissant sur le rivage tous les sceptiques qui prédisent le naufrage certain de l'embarcation et la mort assurée de ses passagers. Mais pour l'instant, les six hommes et le perroquet qui leur a été offert à Lima prennent la mer, confiants. Aujourd'hui, l'expédition du Kon-Tiki.
France Inter.
La Polynésie a été peuplée à partir de l'Asie. Même un petit écolier de 7 ans, c'est cela, monsieur Heyerdahl.
Et j'estime en tant que scientifique qu'il est de mon devoir de prouver et d'enseigner aux écoliers que leur professeur avait tort.
Affaires sensibles.
Voilà donc le Kon-Tiki lâché dans l'océan avec les éléments, l'air et l'eau pour une carburant. Rapidement, le vent se lève, faisant gonfler la voile ornée d'une représentation du dieu Kon-Tiki.
À la fin de l'après-midi, l'Alizé soufflait déjà de toutes ses forces. Il soulevait la mer en lames bouillonnantes qui nous chassaient de l'arrière. Nous nous rendîmes compte que les choses sérieuses commençaient. À compter de cet instant, nous tournions le dos au reste du monde. La réussite ne dépendait plus que du comportement des troncs de balsa en pleine mer. Nous savions que désormais nous n'aurions jamais la possibilité de faire demi-tour. Il ne restait qu'à voguer vent arrière, notre proue dirigée vers le couchant.
Les hommes apprennent à manier le lourd aviron de gouverne installé à l'arrière du radeau, mettent en place un système de cordage pour le maintenir dans le courant, s'attachent eux-mêmes pour ne pas être emportés par une lame, puisque le radeau n'a pas de bastingage protecteur. L'apprentissage est rude, d'autant qu'une mer très agitée secoue sans ménagement l'embarcation lors des premiers jours. Rapidement, la vie s'organise à bord. Chacun est tour à tour barreur, 2 heures le jour, 2 heures la nuit, a par ailleurs son propre domaine. Bengt Danielsson, par exemple, fait office de chef cuistot. Il a installé un petit réchaud à pétrole dans une caisse, sur le pont en bambou, contre un mur de la cabane. Sa spécialité, le poisson. Bah ça tombe bien. Extrait du film « L'expédition du Kon-Tiki ».
Aucun poulet rôti au menu, mais d'autres mets délicats s'offrent à nous sans que nous ayons à faire le moindre effort. Des poissons volants. Une fois échoué sur le pont, un poisson volant est incapable de repartir. Car ces poissons ne volent pas, ils planent. La première tâche du cuisinier le matin est de prendre sa poêle et de ramasser les poissons volants qui se sont abattus sur le pont du Kon-Tiki pendant la nuit. Ils sont absolument délicieux.
Le reste du temps, Danielsson est plongé dans l'un des 73 livres de sociologie qu'il a apporté à bord. Hermann Wenzinger, l'ingénieur, est chargé des observations météo et hydrauliques. Alors on le voit perché sur le mât ou plongé sous le radeau pour vérifier l'état d'une dérive centrale. 5 pièces de bois mobiles ont pris place entre les troncs pour faire office de quille. Elles se révèlent très utiles pour la maniabilité de l'embarcation. Knut Haugland et Thorstein Rabi, eux, ont pour mission de faire fonctionner le petit poste TSF. Chaque nuit, à tour de rôle, ils envoient des bulletins météo et autres mesures prises dans la journée. Captées par des radios amateurs, elles sont transmises notamment à l'Institut météorologique de Washington. Eric Hesselberg, l'ancien marin, raccommode la voile quand c'est nécessaire ou rafistole les cordages. Mais surtout, chaque jour, à midi, il fait le point avec le sextant, juché sur une caisse. Sinon, eh bien, il joue de la guitare, croque ses compagnons ou les habitants de l'océan. Quant à Thor et Heyerdahl, il a fort à faire à tenir le journal de l'expédition et à filmer la vie à bord. Les jours coulent ainsi, tandis que le radeau tient bon. Le balsa ne se délite pas, non. La sève, qui irrigue encore les jeunes troncs, empêche l'eau d'y pénétrer, bien vu. Pas plus de problème d'ailleurs avec les cordages, que le frottement permanent contre le bois risque de faire céder, non. Là encore, ils ont creusé leur niche dans la partie tendre du balsa et ils sont protégés de l'usure.
Si un bateau avait croisé notre chemin, il aurait vu un radeau en train de danser tranquillement à la surface d'une immense plaine ondulée, couverte de petites crêtes blanches, tandis que l'alizée gonflait la voile couleur de rouille dans la direction de la Polynésie. À l'arrière, on aurait aperçu un homme hâlé et barbu, quasi nu, qui luttait avec le grand aviron de queue, tout en tirant dans un cordage embrouillé, ou bien qui, par beau temps, assis sur une caisse, somnolait au soleil en tenant tranquillement l'aviron avec les orteils.
La traversée est bercée de moments joyeux, étonnants, voire poétiques. La contemplation de multiples de poissons et autres animaux marins qui enchantent les passagers par leur couleur ou leur phosphorescence. L'atterrissage inopiné d'un maquereau serpent, un poisson hideux mais rarissime. La proximité ressentie avec les pacifiques baleines dont la respiration par les évents est tellement humaine. Et puis un jour, l'apparition d'une créature inconnue et effrayante, Léviathan surgit des abysses.
La caméra! Bengt! La caméra!
Il est inoffensif.
Inoffensif? Tu veux rien? Il pourrait nous faire chavirer d'un coup de queue.
Au Vietnam, c'est une divinité.
Il l'appelle Kaong, ça veut dire monsieur poisson.
Il revient vers nous. Nom de Dieu!
Sa tête monstrueuse atteignait une telle grosseur et une telle laideur qu'un spectre n'aurait pu nous impressionner davantage. Elle était large et plate comme celle d'une grenouille, avec de petits yeux placés latéralement et des mâchoires de crapaud d'un mètre et demi d'ouverture. Un corps énorme l'a prolongé, mais la mince nageoire caudale prouvait que l'animal n'appartenait à aucune espèce de baleine.
Ah, ah, saloperie ! Il essaie de nous renverser !
Il est attiré par les crustacés, c'est tout.
Alerte, affolement. C'est un requin baleine, long de 20 mètres. Un monstre qui pourrait détruire le radeau sans difficulté. Sa gueule, énorme, rente ouverte sur quelques 3000 dents, met l'équipage sous tension. Passerman, paniqué, lance un harpon. sans savoir que ce poisson est parfaitement inoffensif. Il se nourrit que de plancton. Les réels moments d'inquiétude ne manquent pas, cependant. Par exemple, ce jour où le dinghy, petit canot en caoutchouc, est mis à l'eau. Tous s'y relaient, deux par deux, car voir à distance le radeau, bouchon ballotté par les flots, est un spectacle particulièrement réjouissant. Mais soudain, le vent forcit. Le radeau prend de la vitesse, la distance creuse avec l'annexe. Les deux hommes qui s'y trouvent doivent ramer comme des forcenés pour revenir à bord. Sauvés, mais épuisés. Alors plus question d'aller faire une virée en canot sans que celui-ci soit solidement amarré au radeau. Plus dramatique encore. Un jour, de violentes rafales de vent se mettent soudainement à souffler, balayant le pont. L'un des sacs de couchage s'envole. Hermann Watzinger veut le rattraper, mais il perd l'équilibre et il tombe à l'eau.
Hermann ! Hermann ! Hermann, attrape la corde ! Tiens bon !
Nous entendîmes un faible cri et vîmes Hermann qui nous faisait signe. Il s'agitait désespérément pour regagner le radeau, ballotté par les grandes vagues. Nous nous sentîmes glacés d'horreur. Nous hurlâmes « Un homme à la mer !» tout en nous précipitant vers le matériel de sauvetage le plus proche.
« Attrape la rame ! Accroche-toi ! Tiens bon !»
Hermann était encore à quelques mètres derrière le radeau. Il pouvait espérer arriver jusqu'à l'aviron de Gouverne et s'y agripper, mais ses mains glissèrent dessus. La bouée de sauvetage, toujours prête, pourvue d'un long cordage, fut lancée, mais chaque fois rejetée sur le côté par le vent. La distance qui séparait Hermann du radeau ne faisait qu'augmenter.
Knut, non !
Soudain, nous vîmes Knut plonger dans les vagues, la tête la première, tenant la bouée de sauvetage. Chaque fois que la tête d'Hermann apparaissait au sommet d'une vague, Knut avait disparu. Chaque fois que Knut remontait, Hermann n'était plus visible. Enfin, nous aperçûmes les deux têtes côte à côte. En tirant le cordage qui tenait la bouée, nous pûmes les ramener sains et saufs.
Mais c'est un oiseau !
Un oiseau ! Là ! Là ! Regardez ! Il y a un oiseau !
Et après toutes ces aventures, ces frayeurs, le 30 juillet 1947, au 93e jour en mer, un cri retentit sur le radeau « Terre ». Selon les calculs d'Eric Selberg, le navigateur, il s'agit de Puka Puka, à l'avant-poste de l'archipel des Tuamotu en Polynésie française. La terre ferme est donc là, à quelques brasses, mais encore faut-il pouvoir l'accoster. Car désormais, le radeau n'est plus porté par le courant puissant qui l'a guidé à travers le Pacifique. Autour des îles polynésiennes, les courants sont multiples et souvent violents. Ils serpentent dans toutes les directions. Alors, les hommes voient l'île, voient les signaux de fumée envoyés par les habitants pour les inviter à débarquer, mais le radeau ne veut rien entendre. Le courant l'emporte plus loin.
Ce soir-là, Bengt nous confia qu'il soupirait après une table et une chaise, car il commençait à se lasser de lire, tantôt couché sur le dos, tantôt sur le ventre. Mais il se consolait d'avoir manqué la première île à la pensée qu'il avait encore trois livres à dévorer. Thorstein eut soudain envie d'une pomme. Et moi-même, je me réveillais dans la nuit parce que je crus sentir une odeur de côtelettes et d'oignons. Finalement, ce n'était qu'une chemise sale.
Quelques jours plus tard, le 97e à bord, une autre île est en vue. Elle s'appelle Fangatao, mais c'est un atoll. Avant de pouvoir poser le pied sur ses plages dorées, il faut donc franchir la barrière de corail qui la protège. C'est une muraille de récifs, cette barrière. Aux pointes acérées, les squelettes de navires qui sont venus s'y disloquer disent assez sa dangerosité. Sous le commandement d'Eric, le radeau longe ce rempart immergé sur lequel les vagues se fracassent dans d'impressionnants bouillonnements d'écume, tentant d'y trouver un passage. Au coucher du soleil, soudain, ils aperçoivent des hommes qui mettent une pirogue à l'eau et s'approchent du radeau. Ça veut dire qu'il y a une passe. Mais en dépit de l'aide des Polynésiens pour pagayer et lutter contre le vent qui les éloigne irrémédiablement de cette porte d'entrée, le radeau n'arrive pas à pénétrer dans l'atoll. Alors, adieu Fangatao. Trois jours passent encore, dans l'inquiétude. Le vent les mène tout droit vers le récif mortel de Raoya, qui s'étale sur quelques 80 kilomètres. Inexorablement, malgré leurs efforts pour détourner le radeau de sa route fatale, les éléments les poussent vers Raoya. Fébrilement, les six hommes se préparent à la confrontation avec la barrière de corail.
Tout est en place? Herman, à ton signal. On peut y aller! Jetez l'ancre!
L'ordre numéro 1, qui primait tout, fut « Accrochez-vous au radeau ».
Accrochez-vous!
Quoi qu'il advint, nous devions nous cramponner à bord et laisser les 9 grands troncs supporter la poussée contre le récif. Car si nous sautions dans la mer, nous deviendrions les victimes sans défense du ressac qui nous ballotterait sur les coraux coupants. Mais nos rondins de bois, eux, seraient tôt ou tard lancés sur le rivage et nous suivrions le même chemin à condition de nous y cramponner ferme. Ensuite, tout le monde fut prié, pour la première fois depuis 100 jours, de mettre des souliers.
Et mettez vos chaussures!
Oui, mettez tous vos chaussures!
Le radeau approche du récif, le bouillonnement du ressac sur la barrière de corail se fait de plus en plus menaçant. Thornstein, Rabi, envoie un dernier message à un correspondant de Nouvelle-Zélande, avec lequel il est en contact depuis quelques jours, lui demandant de rester à l'écoute et de prévenir l'ambassade norvégienne à Washington s'il ne reçoit pas de nouvelles dans les 36 heures. Et il finit par ces mots, « Plus que 50 mètres avant le récif, nous y allons. Au revoir. »
C'est le pire moment de tout notre voyage. La crête de la vague s'élève devant nous comme un mur, nous projetant contre les brisants et sur le récif. 12 fois, les brisants nous poussent en avant, mais à chaque fois, nous sommes repoussés vers le large par le courant. Le 13e brisant est si puissant qu'il nous projette par-dessus le récif. Et quand il se retire, nous restons suspendus au-dessus du récif. À l'arrivée de la marée basse, l'océan recule lentement et nous pouvons enfin sauver ce qui peut l'être de notre radeau. Je crois qu'aucun d'entre nous n'oubliera jamais le plaisir extraordinaire de fouler à nouveau le sable chaud et sec et de marcher sur la terre ferme après avoir passé 101 jours sur un radeau en haute mer.
Sur cet îlot inhabité, les six Robinson s'organisent rapidement, dressent un camp de fortune, se servant de la voile comme toile de tente, récupèrent sur le radeau tout ce qui est possible. Et surtout, on s'échine à faire fonctionner la TSF pour prévenir le monde qu'ils sont arrivés en Polynésie sains et saufs. Ils y arrivent effectivement après bien des difficultés, et notamment après être tombés sur un radio amateur de Los Angeles qui ne croit pas un mot de leur histoire farfelue et qui coupe la communication. Après quelques jours sans voir âme qui vive dans les îlots environnants, une voile blanche apparaît sur le lagon, puis une deuxième, suivie bientôt de pirogues. Des Polynésiens vivant de l'autre côté de l'île ont repéré leur feu. Et les voici accueillis, fêtés d'autant plus que grâce à leur boîte à pharmacie, et surtout à la radio qui permet le contact avec un médecin aux États-Unis, ils guérissent un enfant gravement atteint d'un ABC à la tête. Puis le gouverneur de Tahiti, informé, leur envoie une goélette qui les ramène dans la capitale de la Polynésie française après 4 jours de navigation, sans histoire cette fois, avec le radeau à la traîne. Enfin, quelques semaines plus tard, un navire norvégien embarque à Papeete, le Kon-Tiki et son équipage. L'aventure est terminée.
L'homme des temps anciens ne voyait pas l'océan comme un obstacle, mais comme une voie de communication. C'est de la science telle qu'on ne peut la pratiquer assis à un bureau ou dans une salle de réunion.
De retour à la vraie vie, chacun reprend son chemin. Le Kon-Tiki lui effectue une tournée mondiale. Des centaines de milliers de spectateurs se pressent pour voir cette embarcation qui a traversé le Pacifique. En 1954, il est à Paris, sur la Seine. Pour l'occasion, un journaliste de la RTF interroge Thornstein Rabi, qui accompagne le radeau dans sa tournée.
On se demande comment, pendant les tempêtes, vous avez pu tenir là-dessus. Ça devait être extrêmement difficile.
Non, c'était pas difficile du tout. Parce que les troncs de balsa sont tellement légers, ils sont suivis les lames. On n'a jamais eu de lames à bord du Kon-Tiki.
Vraiment, tellement ils sont légers.
C'est ça.
La grande propriété de ce radeau, c'est qu'il était un véritable bouchon. Oui. Il suivait toutes les lames.
C'est ça, oui.
Au bout d'un certain temps, lorsque l'on vit à 6 ou 7 sur un radeau, très rapidement, il y a des frictions. Vous êtes toujours bien entendu entre les membres de l'équipage?
Oui, c'est ça. Il n'y avait pas de friction. Pas du tout.
Pas du tout.
Non.
Vous n'avez pas eu envie de jeter un de vos compagnons au requin?
Non, pas du tout. Non.
C'est vraiment très bien passé.
Au contraire.
Est-ce que vous pouvez, alors pour terminer, relater ce moment prodigieux où vous avez découvert la première Terre quand même? c'était un triomphe pour vous et en même temps, un soulagement.
C'était évidemment un triomphe, mais c'était pas nécessaire de trouver un île. Oui. C'était tellement bien sur le radeau.
Et voici une information qui vaut le détour, gardée pour la fin comme un bon dessert. Thor et Heyerdahl ne savaient pas nager. Mais l'expédition du Kon-Tiki n'a pas étanché sa soif de navigation sur d'improbables embarcations. Un navire fait de papyrus pour montrer que les Égyptiens ont pu traverser l'Atlantique. Plus tard, il a alors 63 ans, il embarque sur un bateau de roseaux pour étudier les échanges qui auraient pu exister entre les Sumériens en Mésopotamie et d'autres civilisations du Moyen-Orient jusqu'au Pakistan. Mais c'est l'expédition du Kon-Tiki qui marque les esprits, en particulier grâce au récit alerte qu'en a fait son capitaine. C'est l'un des 10 livres les plus traduits au monde, en 70 langues. Il s'est vendu à des millions d'exemplaires. Le film tourné à bord a contribué lui aussi au retentissement de l'expédition. Il reçoit en 1950 l'Oscar du meilleur documentaire et se termine sur ces mots de Thor Heyerdahl.
Le succès de l'expédition du Kon-Tiki n'apporte pas la preuve de la validité de ma théorie sur les migrations raciales. Mais notre traversée prouve que les îles polynésiennes étaient accessibles aux radeaux préhistoriques du Pérou et que l'homme primitif avait pu entreprendre de longs voyages et traverser l'océan. Le facteur décisif n'est pas la distance, mais le vent et les courants qui soufflent et circulent dans le même sens chaque jour et pendant toute l'année.
La thèse de Thor Heyerdahl n'est pas prouvée, elle est même totalement infirmée par les études ultérieures. Une chose toutefois est sûre, les Polynésiens, d'où qu'ils viennent, sont depuis la nuit des temps d'excellents marins. Sans carte ni boussole, sur des pirogues à balanciers ou des catamarans, ils ont franchi des milliers de kilomètres dans tous les sens et exploré tout le Pacifique jusqu'aux côtes américaines. Mais ceci est une autre histoire.
Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le Kon-Tiki, notre invité Éric Comte. Bonjour.
Bonjour.
Ah, d'abord, un grand merci parce que vous vous êtes levé au beau milieu de la nuit pour être avec nous aujourd'hui. Il est présentement un peu plus de 3h30 du matin, Papette, et c'est ça, vous confirmez?
Oui, 3h43 exactement.
Bon, ben merci et bravo. Vous êtes archéologue et historien. Vous avez présidé l'Université de Polynésie française, vous êtes le fondateur et le directeur de la Maison des sciences de l'homme du Pacifique, et vous avez récemment publié « Sur le chemin des étoiles ». Alors, c'est pas un livre d'aéronautique, hein, puisque le sous-titre nous dit « Navigation traditionnelle et peuplement des îles du Pacifique ». Vous avez également, en 1992, consacré un ouvrage au peuplement des îles du Pacifique. Vous connaissez donc bien le sujet, mais si vous le voulez, revenons au Kon-Tiki. Quel regard le scientifique que vous êtes porte-t-il sur cette expédition dont on rappelle qu'elle avait un objectif scientifique, mais qu'elle était quand même très aventureuse?
Oui, disons que l'objectif scientifique, hélas, n'est pas rempli, hein, bien sûr. Mmh. Vous l'avez d'ailleurs très, très, très bien dit, mais c'est une aventure très, très courageuse, même téméraire, hein, puisque lorsqu'il partait, disons que la plupart des gens avertis pensaient qu'ils allaient faire naufrage et se noyer dans le Pacifique. Donc oui, c'est quelque chose de très courageux, mais qui n'a rien prouvé, si on peut dire.
Alors, pensez-vous qu'avant le Kon-Tiki, des radeaux de balsa ont traversé le Pacifique?
Alors,
c'est la vraie question, hein, dire, par rapport à ce que nous disent les Suédois.
Ben, disons que j'en sais rien, et je pense que personne n'en sait rien. C'est pas impossible. Le problème, c'est que dire que la question n'est pas la question. Heyerdahl, son problème, finalement, c'était de prouver que les Polynésiens, les ancêtres des Polynésiens, venaient d'Amérique. Et là, disons que radeau ou pas radeau, il n'a rien prouvé. Quoi. Voilà.
C'est un peu le radeau de la méprise. Et,
voilà, si vous voulez.
Bon, alors la grande affaire de Heyerdahl, effectivement, c'est qu'il a tenté de prouver tout au long de sa vie ce que la science n'a pas prouvé. Mais enfin, ce qu'il dit aussi, c'est que depuis la nuit des temps, l'homme a cherché à explorer, à aller voir ce qu'il y avait au-delà des mers. Et ça c'est peut-être pas contestable.
Alors ça, c'est tout à fait vrai, mais justement, c'est ce qui était justement à l'œuvre aussi. Dans les exploits des navigateurs qui sont partis d'Asie. Mmh. Hein, puisque là aussi, leur but, c'était de découvrir des nouvelles terres, d'explorer. On a même comparé ça avec la conquête spatiale, hein, vous savez. Donc, c'est la même motivation de découvrir ce qu'il y a derrière l'horizon. Et ça, que ce soit d'Amérique ou que ce soit d'Asie, les choses sont identiques et elles sont même finalement beaucoup plus exceptionnelles depuis l'Asie.
Alors, la question de l'origine du peuplement de la Polynésie, j'y reviens, se pose peu ou prou, on va dire, depuis le XVIIIe siècle, hein, depuis que l'île de Pâques a été découverte par un explorateur néerlandais, alors qu'il a été passablement étonné d'y trouver des habitants. Hein, comment des hommes ne disposant que de pirogues à balancier avaient-ils pu arriver là? Bref, différentes hypothèses ont été soulevées, certaines plus folles que d'autres. Racontez-nous cela, ce que vous savez de tout ça.
Oui, alors bon, disons que d'abord, c'est évident que les Européens avaient eu énormément de difficultés à atteindre ces îles. Je parle surtout des îles polynésiennes qui sont quand même les plus isolées au monde, hein, parmi les plus isolées au monde. Donc, ils ont été, bien sûr, eux-mêmes ont beaucoup de difficultés à atteindre ces îles et ont été encore plus étonnés de voir que des hommes les avaient précédés. Et ces hommes, en plus, ils les trouvaient en bonne santé, beaux, et ils les trouvaient blancs aussi. Pour les Européens, les Polynésiens étaient blancs. Et donc après, ils considéraient comme blancs par rapport aux Mélanésiens qu'ils avaient déjà rencontrés. Et donc, dans l'esprit des premiers navigateurs, un blanc, normalement, c'est quelqu'un d'un peu supérieur. Et donc, ils se demandaient que faisaient ces blancs isolés sur des îles un peu complètement perdues. Donc, à partir de là, plusieurs hypothèses ont été échafaudées, si on peut dire. Bon. Celles qu'on connaît déjà, c'est-à-dire celles d'Heyerdahl, pour les mêmes raisons finalement. C'est-à-dire que les hommes venaient d'Amérique parce que les courants et les vents venaient la plupart du temps. Lui, il a dit tout le temps, mais enfin, d'Amérique. Bon, ça, c'est la première thèse. La deuxième thèse, c'était la thèse de James Cook, hein, qui, très tôt, s'est rendu compte que sur des considérations linguistiques, eh bien, il y avait des affinités de langue entre les Polynésiens et ce qu'il appelait les habitants des Indes orientales, c'est-à-dire finalement l'Asie du Sud-Est.
Oui.
Donc ça, c'était les thèses. Et puis, il y a eu des thèses beaucoup plus étonnantes, notamment celle du continent disparu. Mais il ne faut pas oublier, je ne sais pas si on peut parler de ça assez longtemps, mais oui. Que jusqu'à James Cook, les Européens considéraient qu'il existait un continent austral. Sur les cartes, c'était marqué Terra Australis Incognita, ça veut dire la terre du Sud.
Oui.
Et donc, qui était supposé équilibrer le globe terrestre. Donc, James Cook a démontré que ça n'existait pas au XVIIIe siècle, quand même. Et donc, certains ont dit, il n'existe pas, mais ça veut dire qu'il a disparu.
Ouais.
Et donc, c'est les hommes, donc un effondrement, un cataclysme, etc., et aussi une sorte d'Atlantide du Pacifique. Et l'idée, c'était que des hommes avaient habité là. Et d'ailleurs, pour certains, c'est Churchward qui, au début du XXe siècle, a fait toute une série de livres un peu affolants où il dit que c'est pratiquement l'origine des hommes et sur ce continent qui a disparu. Et il y a encore beaucoup d'adeptes sur Internet qui partagent cette folle théorie. Quoi. Voilà, donc il y a eu d'autres théories, mais c'était surtout la méconnaissance aussi à l'époque.
Bien sûr.
Et avant de la géologie, évidemment, tout démontre qu'il n'y a jamais eu de continent à cet endroit.
Le continent englouti. Oui. Éric Conton,
oui,
surtout vous ne quittez pas, hein, vous êtes loin, raison de plus pour ne pas quitter. On écoute la femme, Aloha Baby.
Affaires sensibles sur France Inter.
Éric Comte, vous écrivez dans votre ouvrage, sur le chemin des étoiles, que la colonisation du Pacifique est sans doute le plus grand exploit maritime de toute l'histoire de l'humanité, en vertu notamment des distances entre les différents archipels de cet océan.
Oui, en effet, c'est le plus grand océan du monde. Hein.
Oui.
Il est plus étendu que toutes les terres émergées. Donc, évidemment, les distances ont posé d'énormes problèmes sur le point de vue de la navigation. Mais finalement, ce n'est pas le seul exploit. La navigation, c'est une chose, mais il y a autre chose. C'est que cet océan très grand est presque vide de terre et que finalement, les terres sont non seulement de plus en plus éloignées et distantes à mesure qu'on se déplace d'ouest en est, mais elles sont de plus en plus pauvres en animaux, en végétaux. Oui. Si bien que les îles polynésiennes, qui aujourd'hui passent pour le paradis, étaient, quand les hommes sont arrivés, inaptes à la vie humaine. Donc, ils ont dû apporter avec eux les plantes, les animaux. Ils ont même inventé le clonage des plantes et ont transporté petit à petit tout ça jusqu'à ces îles et ont non seulement adapté les îles à leurs besoins, mais aussi ont fait un grand effort d'adaptation, notamment pour connaître le milieu marin, le milieu terrestre, etc. Donc c'est un exploit qui est maritime, bien sûr, mais c'est aussi un exploit qui est culturel et social, parce qu'il y a aussi une organisation sociale pour coloniser des îles dispersées sur le plus grand océan du monde.
Ouais. Et alors, concernant la navigation, on parle de pirogues à balancier, on parle aussi de catamarans, c'est-à-dire des pirogues doubles. Quelle taille avaient ces embarcations? De quel bois étaient-elles faites? Et enfin, qu'est-ce qui les rendait capables d'affronter la haute mer?
Oui. Alors, première chose, la taille moyenne des embarcations qui traversent le Pacifique aujourd'hui, des voiliers, et de 12 mètres. Hein, donc, la taille n'est pas le plus important. En fait, les ancêtres des Polynésiens disposaient de deux types d'embarcations, des pirogues simples à balancier, qui pouvaient avoir 10-12 mètres de long quand même, hein, et qui leur servaient essentiellement dans les phases de peuplement, dans les phases d'exploration. Parce que lorsqu'on part pour voir s'il y a une terre, on ne part pas nombreux, on part à 3 ou 4, et on faut être prêt à aborder n'importe quel environnement qu'on ne connaît pas. Donc ça veut dire que si vous arrivez sur une île où il n'y a pas de passe, par exemple, il va falloir monter sur le récif. Si vous avez une pirogue lourde, c'est impossible. Donc il fallait forcément, dans la phase d'exploration, des pirogues légères et maniables. Ensuite, s'ils se décidaient à organiser une véritable colonisation, là, il faut transporter plus de monde, des enfants, des femmes, mais aussi de l'eau, des plantes, des animaux, etc. Et là, il fallait des pirogues beaucoup plus spacieuses et beaucoup plus stables. Et c'était des pirogues doubles. Alors bon, d'où descendent les catamarans actuels? Elles pouvaient faire une vingtaine de mètres de long. Avait un ou deux abris en matière végétale et un ou deux mâts. Et elles étaient construites soit en creusant de très grands troncs d'arbres et puis ensuite en rajoutant des bordées, soit en cousant des planches avec une technique que pas le temps d'expliquer ici, avec un bon calfatage pour faire des pirogues très spacieuses finalement. Et bon, il y a eu quelques expérimentations qui ont montré que ces pirogues tenaient très bien la mer. Et d'ailleurs, James Cook, qui était évidemment un très grand connaisseur des bateaux, a été très admiratif des embarcations polynésiennes. Et il disait qu'elles étaient rapides, maniables, enfin, etc. Après, ça ne voulait pas dire que les gens ne faisaient pas des naufrages, bien sûr.
Bien sûr.
Comme tout le monde.
Toute dernière question, il nous reste quelques secondes. Quand on parle de ces gens-là, des ancêtres, rappelons l'espace-temps, c'est quoi les années? Ça va de quelle année jusqu'où? On parle de gens de quel millénaire?
Alors, quand on parle des Polynésiens de la Polynésie française actuelle, qui est au centre du triangle polynésien, ils sont arrivés là aux alentours de 1000 après Jésus-Christ.
1000 après, d'accord. Souvent, voilà. Donc, correspondait.
Donc, c'est à peu près 1000 ans.
Ouais.
Mais bien sûr, le départ, leurs ancêtres, qu'on appelait les Lapitas, sont partis de Mélanésie vers 1500 avant Jésus-Christ. Mais bien sûr, après, une progression très progressive.
Merci infiniment, en tout cas, Éric Comte, encore une fois, d'avoir été disponible à cette heure étrange de la journée, qui est d'ailleurs celle de la nuit, chez vous. Au revoir, merci encore.
C'est un plaisir, au revoir.
Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le Contiki, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Henri Bérec.